France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthès.
Ça y est, ce fameux variant Delta, semble-t-il, va où il veut, quand il veut, c'est son été indien, c'est potentiellement la rentrée qu'il va nous gâcher. On ne dira pas qu'on n'a pas été prévenu. Si c'est le cas, on ne dira pas qu'on n'a pas les doses. Alors qu'est-ce qui peut encore faire qu'on évite le pire, ce variant-là? Peut-être d'ailleurs déjà son cousin, le Delta Plus, sont incroyablement plus contagieux que les variants déjà répertoriés. Il y a eu 2 morts en France, 2 personnes non vaccinées. Soyons justes, l'inquiétude vient aussi des déjà vaccinés qui ont pu être contaminés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il y en a eu notamment au Royaume-Uni. Est-ce qu'on parle d'une infime proportion ou suffisamment pour s'interroger? Malgré tout, vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu les appels pressants à se faire vacciner, les appels à convaincre ceux qui n'en voient pas encore l'utilité. On ne fera pas l'économie d'un peu de débat sur l'obligation vaccinale des soignants, parce que s'il y avait une 4e vague à la rentrée à cause de ce variant, qu'est-ce que cela impliquerait? Jusque-là, ce sont les hôpitaux qui ont servi d'échelle, service de réanimation débordée égale mesure de restriction de plus en plus serrée. Est-ce que notre taux de vaccination pas encore assez haut implique à nouveau des services débordés? Est-ce que des restrictions donc supplémentaires peuvent nous pendronner à terme? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Mélie. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute.
Ma question est assez simple. On dit beaucoup que le variant Delta est plus contagieux que les autres. Et je voulais savoir ce que ça voulait dire, ce que ça recouvrait concrètement. Est-ce que les modalités de contagion sont différentes ou est-ce que ce sont les mêmes, simplement avec plus de risque de l'attraper?
Eh bien, on va tâcher de répondre à votre question, Mélie. Pas de souci. Merci beaucoup pour discuter ensemble ce soir. Olivier Schwartz est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur. Et Philippe Amouyal est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de santé publique à l'Université de Lille. Tiens, je vais commencer avec vous, Monsieur Amouyal. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Mélie? Comment se fait-il que ce variant-là soit plus contagieux que les autres? J'ai même lu un chiffre qui allait de 67 à 120% plus contagieux. Ça me paraît énorme.
Oui, mais c'est apparemment le cas et c'est ce qui sort des études qui proviennent du Royaume-Uni. Donc très concrètement, si un variant émerge, c'est qu'il a un avantage par rapport aux précédents variants contre lesquels les vaccins commencent à avoir un certain effet. Et ce nouveau variant, ce variant Delta, a cette propriété d'infecter plus vite et plus rapidement les personnes. Une personne, en général, infecte 4 autres personnes. Ce variant en infecte 6 en moyenne.
Mais est-ce qu'il infecte plus, ça c'est clair, et est-ce qu'il infecte plus durement ou comme les précédents, si je puis dire?
Alors pour l'instant, les données qui viennent essentiellement du Royaume-Uni ne permettent pas encore de savoir s'il infecte plus durement ou s'il a plus de formes mortelles. Donc il va falloir attendre d'avoir plus de chiffres. Mais pour l'instant, ce que l'on constate, c'est que les personnes vaccinées qui sont infectées et vaccinées à 2 doses ont 97 chances de ne pas être hospitalisées, et ce qui est un élément absolument essentiel.
Et on y reviendra absolument. Olivier Schwartz, quand on le regarde, je vais le dire comme ça, quand on le regarde au microscope, au fond, ce variant, qu'est-ce qu'il nous dit de différent qu'on n'avait pas vu dans les variants précédents? Qu'est-ce que sa culture nous dit qui peut nous enseigner sur ce qu'il fera derrière?
Eh bien, effectivement, nous, ce que nous faisons au laboratoire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il est plus contagieux. Parce que, comme le rappelait Philippe, les données disponibles à l'heure actuelle sont épidémiologiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce qu'il se multiplie mieux? Est-ce qu'il a une fitness? On parle de fitness virale augmentée. Est-ce qu'il rentre plus facilement dans une cellule? Est-ce que la cellule infectée va produire plus de virus? Est-ce qu'il va y en avoir plus qui vont être sécrétés dans les muqueuses nasales? Et donc, c'est la compréhension de ces caractéristiques virologique, couplé d'ailleurs à ses caractéristiques immunologiques, c'est-à-dire sa capacité à échapper plus ou moins fortement à la réponse du système immunitaire, qui donne sa signature de plus forte contagiosité.
Mais est-ce qu'on, du coup, on n'a que des questions pour l'instant, ou est-ce que déjà on a vu des choses qui sont très différentes de ce qu'on a pu voir sur le variant britannique, par exemple Alpha, ou sur un autre?
Alors, pour l'instant, donc les études sont en cours et il n'y a pas beaucoup de choses définitive publiée. Nous, ce qu'on a pu voir dans nos cultures cellulaires, bon, c'est quand même un variant qui est très proche du variant précédent, du variant alpha, du variant anglais puisque sur l'ensemble de son patrimoine génétique, il y a en particulier au niveau de la spicule, il y a 9 mutations. Donc c'est cet ensemble de 9 mutations combinées qui le rend différent. Et donc en culture cellulaire, ce qu'on a pu voir, nous, c'est qu'il a l'air d'infecter plus rapidement, de fusionner plus rapidement, donc de rentrer plus facilement dans la cellule et peut-être de se propager plus rapidement. Et donc on essaye de caractériser ça plus en détail pour traduire ça en conséquences pour la santé.
Est-ce qu'on sait où et quand s'opèrent ces mutations-là ? Ça se passe à quel moment, en fait, la mutation d'un virus ?
Eh bien, la mutation est un phénomène aléatoire au cours de la multiplication du virus. Il peut de temps en temps faire une erreur. Dans le cas du coronavirus...
Mais par exemple, ça peut être dans mes cellules, subitement, paf, qu'une variation se produit et ensuite je la transmets variée. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
C'est aussi simple que ça. Donc le virus fait des mutations au hasard. Il en fait très peu. Le coronavirus en fait beaucoup moins, par exemple, que le virus HIV, puisqu'il a des enzymes plus efficaces. Mais cependant, il y a des cycles de multiplication, plus il y a des individus infectés, plus il y a des individus donc, qui ont une immunité, et bien plus le virus va essayer de se faufiler et profiter de ces mutations pour acquérir un avantage sélectif.
Et alors, avant de retourner au standard OPCI, bien allons-y directement, puisque la question est très proche. Bonsoir Brigitte.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonjour à toute l'équipe et merci de nous éclairer. Moi, ma première question, voilà, le vaccin Pfizer, mais il a déjà répondu là le professeur presque à ma question. Je voulais simplement savoir si le vaccin Pfizer était suffisamment efficace contre ce variant indien. J'ai connaissance de ce chiffre à 25% seulement lors après la première dose. Mais qu'en est-il après la seconde dose ? Il disait à 87% par là ou...
Et moi, j'ai même lu même plus haut. Qu'est-ce qu'on peut dire à Brigitte, Olivier Schwartz ?
Alors, il y a des données épidémiologiques et il y a des données en culture cellulaire. Les données épidémiologiques, Philippe les a rappelées, c'est que la vaccination, que ce soit d'ailleurs avec Pfizer ou avec AstraZeneca, une seule dose n'est pas suffisante. C'est-à-dire que la quantité d'anticorps qui est produite par la première dose est basse. Et comme il faut plus d'anticorps pour neutraliser ce variant, puisqu'il a justement ses mutations, eh bien ça ne suffit pas à être protégé. C'est pour ça que les personnes qui sont actuellement infectées par le variant Delta sont des personnes soit non vaccinées, soit qui ont reçu une seule dose. En revanche, lors de l'administration de la seconde dose, les quantités d'anticorps vont augmenter de façon importante en quelques jours, quelques semaines. Et c'est vrai à la fois pour le vaccin Pfizer et le vaccin AstraZeneca. La quantité d'anticorps va être suffisante pour neutraliser le virus avec cependant une efficacité moindre. Il faut 4 à 6 fois plus d'anticorps. Mais la quantité d'anticorps induite par la vaccination double dose est probablement... Et même épidémiologiquement suffisante pour protéger contre les formes symptomatiques de l'infection.
Philippe Amouyel, la question pour la raison pour laquelle on pose cette question-là, je rappelais tout à l'heure en introduction que c'était les hôpitaux qui avaient dicté à leur corps défendant les phases de confinement en fonction de l'état des services de réanimation. Si on considère en France aujourd'hui qu'il y a une petite moitié de population, on va le dire comme ça, qui est vaccinée, donc il en manque beaucoup, il manque au moins 5 millions de plus de 55 ans qui sont censés être les plus à risque. Mais est-ce qu'avec ce chiffre-là, on peut considérer que si le variant anglais indien prenait une place plus importante, il pourrait y avoir embouteillage dans les services de réa ? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'achemine potentiellement exactement vers la même chose ? Ou est-ce que non, en fait, on est moins dans ce genre de schéma qu'on l'a été ces derniers mois ?
Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions, mais tant qu'on est à ces seuils qui sont un peu limites sur la vaccination à deux doses, hein, puisque ça concerne aujourd'hui entre 30 et 40 % des Français, le variant indien peut se faufiler. Et il va se faufiler pour faire une vague en moyenne, hein, c'est d'après les chiffres des enquêtes Comcor de Pasteur, il faut à peu près, ça va toucher 5 à 10 % de la population non vaccinée. Donc, vous voyez que quand il reste encore près de 40 % de gens qui ne sont pas vaccinés, il y a de la place pour que le vaccin circule. Et en plus, quand on voit qu'un certain nombre de ces personnes se recrutent parmi les gens plus âgés avec des comorbidités, il y a un risque de montée des hospitalisations, voire des installations en réanimation. Donc c'est ça absolument qu'il faut freiner pour éviter un engorgement sanitaire à la rentrée.
Est-ce qu'on sait des choses sur sa dangerosité réellement, Philippe Amouyel ? On sait qu'il y a eu deux personnes qui sont mortes, des gens qui avaient des comorbidités et qui n'étaient pas vaccinés. Donc on est dans une catégorie qui est très très à risque en fait. Est-ce qu'on sait si le risque est plus important avec ce variant qu'il l'était avec les variants précédents ? Est-ce que c'est trop tôt pour pouvoir dire ça ?
Je pense que c'est trop tôt pour pouvoir dire ça. Il y a une étude écossaise qui a tendance à montrer qu'apparemment, mais on ne connaît pas bien le dénominateur, hein, le nombre de personnes qui ont été infectées, le risque, une fois qu'on est infecté, d'être hospitalisé est le double de celui du précédent variant. Mais c'est le seul élément qu'on a actuellement sur cette potentielle gravité. Hospitalisé, nous ne voulons pas dire qu'on va aller en réanimation.
C'est ça, c'est important de le dire. Hospitalisé veut dire forme grave, on va le dire comme ça, Olivier Schwartz, mais pas forcément forme très grave. Pardon de mettre ce genre d'échelle, mais enfin c'est ça que ça veut dire.
Oui, je pense qu'il est trop tôt pour le dire, comme le rappelait Philippe. Il faut rester prudent. On peut prendre l'exemple du variant anglais, du variant dit anglais, le variant alpha, puisqu'il y a une première étude d'ailleurs publiée dans Nature montrait que les risques d'hospitalisation étaient augmentés d'un facteur 5 ou 2, je crois. Et ensuite, ces chiffres qui étaient fondés sur un petit nombre d'échantillons ne se sont pas reconfirmés dans d'autres études. Donc il est prématuré de conclure à une dangerosité accrue pour l'instant.
Est-ce qu'il touche tous les âges, Philippe Amouyel, ou est-ce que statistiquement il touche les plus jeunes, mais la raison pour laquelle il toucherait les plus jeunes serait plutôt parce que, pour l'instant, la population la moins vaccinée, statistiquement, est dans les plus jeunes. Donc, est-ce que là aussi, on peut dire qu'il a une préférence ou est-ce qu'il est trop tôt pour pouvoir donner une préférence ?
Le virus touche toutes les populations, sauf qu'il se faufile là où il peut circuler le plus rapidement possible, c'est-à-dire parmi les personnes non vaccinées. Aujourd'hui, que ce soit en France ou que ce soit au Royaume-Uni, on constate que, avant 25 ans, il y a 5 fois plus de contamination qu'après 65 ans. Mmh. La vaccination étant en jeu, puisque dans tous les pays, on a vacciné de manière prioritaire pour limiter les formes graves, les personnes les plus âgées avec comorbidité. Donc il existe un réservoir aujourd'hui dans lequel le variant se déplace, qui assure la transmission, qui est celui des moins de 25 ans. Et là encore, c'est l'autre cible avec les personnes fragiles, les 5 millions de Français qui n'ont pas été encore vaccinés, sur lesquels il faut absolument se concentrer. D'un côté, pour limiter les complications, les hospitalisations, et de l'autre pour limiter la circulation.
Et est-ce que c'est ça qu'il faut dire particulièrement, Philippe Amouyel, aux gens qui aujourd'hui hésitent encore à se faire vacciner, y compris d'abord chez les jeunes, par exemple, quand vous entendez « mais pourquoi je me ferais vacciner puisque de toute façon je sais que je ne ferai pas de forme grave ». Qu'est-ce qu'on dit à ce jeune qui hésite, qui n'est pas pressé ou qui se dit « j'attendrai plutôt la rentrée » à cause de ce variant indien, en tout cas, encore une fois.
Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation qu'on était lors de la première, de la deuxième ou de la troisième vague. Aujourd'hui, on a un moyen de bloquer une quatrième vague. Une quatrième vague, c'est quelque chose qui va encore bloquer la France, qui va saturer les hôpitaux, qui va déprogrammer. On a le moyen de la réduire très significativement, voire même de l'éviter. Et les impacts, c'est pas parce qu'on est plus ou moins gravement malade, c'est parce qu'on ne pourra pas suivre une scolarité normale, c'est parce qu'on ne pourra plus retourner au cinéma, c'est parce qu'on va être obligé de remettre en place des restrictions. Donc rien que ça, c'est un bénéfice absolument direct qui touche l'ensemble de la population. Donc essayons de limiter la transmission du virus pour justement réduire ce risque.
Une dernière question avant de retourner au standard, Olivier Schwartz. Qu'est-ce qu'on doit penser de ces cas de gens qui étaient vaccinés à double dose et qui ont quand même été atteints par le variant Delta, donc variant indien ? Est-ce qu'on est dans quelque chose de très marginal ou pas ?
Alors, on est probablement dans quelque chose de marginal, où des personnes qui, pour une raison, une comorbidité, n'ont pas monté une réponse anticorps suffisante pour pouvoir être protégées. Mais on a les chiffres dans de l'étude épidémiologique en Angleterre, et donc on a une protection, par exemple, à plus de 90% avec le vaccin Pfizer, par exemple. Donc il s'agit soit de personnes qui ont été vaccinées et qui ont reçu la deuxième dose il y a peu de temps, puisqu'il faut au moins 2 semaines pour que la quantité d'anticorps augmente suffisamment, ou alors des personnes, encore une fois, qui peuvent avoir un traitement particulier, une maladie auto-immune, par exemple, ou un traitement immunosuppresseur.
Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir Fabienne Saint-Esse, et bonsoir à vos invités. En lien avec l'été indien que vous évoquiez tout à l'heure, Et de manière plus globale, combien de temps pouvons-nous espérer être protégés par la vaccination, que ce soit Astra, Moderna, Pfizer, lorsque le protocole complet de vaccination est effectué? Et ben, ma question, je pense, d'autant plus importante qu'on va sans doute malheureusement assister à une croissance importante du Delta, voire du Delta Plus, et peut-être encore l'émergence d'autres variants.
Merci beaucoup, Yves. Et je rajoute à la question de Yves, est-ce que les chiffres que nous avions, qui étaient à peu près pour l'instant, parce qu'on manque un peu de recul sur le variant anglais, est-ce qu'on les oublie de toute façon? On doit refaire des calculs avec le variant Delta sur la longueur donc de l'efficacité vaccinale. Olivier Schwartz, pardon. Désolé.
Donc, on sait que l'immunité qui est générée par la vaccination ou l'immunité naturelle, en fait, va durer de longs mois. Puisque la quantité d'anticorps, il y a différentes études qui le suivent maintenant au cours du temps avec des prélèvements, il y a une diminution progressive de la quantité d'anticorps et on sait que c'est un très bon marqueur de la capacité d'un individu à être protégé. Avec et nous d'ailleurs on est en train de faire une étude de ce genre, on a une cohorte d'individus qu'on suit tous les mois maintenant et donc on voit que il y a une décroissance. Le variant dit sud-africain, par exemple, lui, l'efficacité vaccinale a l'air de diminuer beaucoup plus rapidement. Il a l'air d'être plus résistant aux anticorps, par exemple, que le variant Delta.
Mais plus vite, ça veut dire quoi, en fait,
M. Schwartz? En quelques mois, je ne peux pas donner un chiffre précis pour l'instant, parce que c'est aléatoire. Il faut voir sur le long terme. Mais il y a des études qui montrent au bout de 4 mois, 6 mois, il y a encore une quantité d'anticorps tout à fait suffisante.
Ça nous amène à la question de Muriel, qui peut-être est dans votre cohorte, allez savoir. J'ai eu le Covid en octobre, j'ai été vacciné en avril avec une seule injection, donc est-ce que ce nouveau variant doit me faire envisager une deuxième injection? En gros, est-ce qu'on refait les calculs? Je comprends bien cette question de Muriel. Est-ce qu'on refait les calculs, y compris pour les gens qui ont déjà été infectés, qui n'ont reçu qu'une dose?
Alors, c'est une bonne question. Et ce qui a été montré par nous et par d'autres équipes, c'est que le fait d'avoir fait une première infection Covid et avoir reçu une première dose une dose unique, c'est ce qui est recommandé de vaccin, booste, c'est-à-dire augmente de façon très significative la quantité d'anticorps. En fait, c'est même plus efficace que de faire deux doses d'anticorps. Donner une dose de vaccin à une personne qui a été déjà infectée, c'est comme un boost après une immunité naturelle. Et là, il y a des taux très élevés. Donc, a priori,
ça veut dire que son immunité, elle, descendra peut-être moins vite que la mienne, qui n'ait pas eu le Covid et qui a eu deux injections, potentiellement, en fait.
Peut-être. Le long terme nous le dira, mais c'est possible.
Allez, Vincent, bonsoir.
Oui, bonsoir, madame.
C'est vous qui mettez les pieds dans le plat sur le sujet du moment, allez-y.
Comment ?
Ah, c'est vous qui mettez les pieds dans le plat pour le sujet du moment, allez-y.
Ah bon, c'est mon habitude. Bon, donc en fait, ma question est pour vos invités médecins et scientifiques. Nous, si je résume bien, ils ont largement développé. Donc si je résume bien, il y a un vaccin, il y a des variants qui circulent, un vaccin efficace, des variants qui circulent. Si on est vacciné, on n'est pas hospitalisé dans une forme grave ou en réanimation. Donc on soulage le système hospitalier. N'est-il pas temps, puisqu'on a largement rappelé les intérêts de la vaccination à titre individuel, peut-être moins à titre collectif, d'imposer cette vaccination de manière obligatoire afin d'éviter la quatrième vague qui se profile à la rentrée et qui engorgerait les hôpitaux. Donc, vaccination obligatoire pour le personnel hospitalier, dans les EHPAD et, par exemple, à titre d'exemple, pour les étudiants qui rentreraient à la faculté.
Merci beaucoup, Vincent. Je disais les plaies dans le plat, Philippe Amouyel, parce que forcément, le sujet reviendra, il traversera l'été. J'ai même envie de vous la poser encore plus directement. Pourquoi faudrait-il attendre pour imposer la vaccination dans le personnel soignant? Est-ce que c'est pas trop tard si on attend le mois de septembre?
Alors, je crois que ce que dit Vincent est juste, c'est-à-dire qu'il a envie d'éviter une quatrième vague. On a bien compris que c'était les vaccins. Donc, il faut maintenant passer de la conviction à l'incitation forte. Donc, l'incitation forte, elle touche bien sûr les soignants, mais pas uniquement. Les soignants ont une responsabilité médicale et déontologique à se faire vacciner pour éviter justement de contaminer des personnes qui sont fragiles. Même si elles sont vaccinées à deux doses, c'est pas la même chose quand vous avez 90 ans et que vous avez un diabète que quand vous êtes tout jeune. Donc, il y a quand même un risque. Donc là, il est déontologiquement inconcevable de laisser courir ce risque. Donc là-dessus, oui, je pense qu'il va falloir à un moment ou à un autre faire savoir qu'on ne peut pas laisser un personnel soignant qui est responsable de personnes fragiles et de patients non vaccinés.
Mais est-ce qu'il faut attendre, pardonnez-moi Monsieur Mouyal, est-ce qu'il faut attendre le mois de septembre, 2 mois, tout l'été en fait?
Bon, écoutez, moi je pense pas, hein, mais voilà, après il y a peut-être des décisions politiques plus lourdes à prendre, hein, c'est toujours quand même, la décision est toujours politique, jamais sanitaire, donc voilà, mais mon avis c'est que l'exemple qu'on a eu dans les pas des Landes est un exemple caricatural de cette situation.
Qu'est-ce que vous dites, vous, Olivier Schwartz, là-dessus ?
Eh bien, bon, bah, je pense que c'est une décision de santé publique qui doit être prise par les autorités politiques du pays. Et puis, j'ai entendu tout à l'heure Olivier Véran qui avait l'air d'émettre une opinion à ce sujet. Ouais. Donc, il a.
Disons qu'on laisse encore. Et je peux comprendre ce que ça veut dire. Hein, on laisse encore, maintenant qu'on a tapé sur les doigts en disant écoutez, c'est dangereux. Effectivement, comme le dit Philippe Amouyel, ça n'est pas déontologique. Prenez vos responsabilités, faites-le, et si jamais il ne se passe rien, on obligera au mois de septembre.
Il faut savoir qu'il y a d'autres vaccinations obligatoires pour le personnel soignant, dans l'hépatite B par exemple, qui sont pour protéger le personnel soignant, mais également pour empêcher celui-ci de pouvoir contaminer des personnes fragiles.
Moi, là où je suis curieuse quand même, c'est que qu'il y ait un certain nombre de gens qui sont difficiles à convaincre, je pense qu'on ne les convaincra pas même d'ailleurs, mais au sein du personnel soignant, c'est encore autre chose, puisqu'on est dans un environnement qui est censé être un vrai environnement d'information sur ces questions-là. On entend, par exemple, la peur des effets secondaires, des effets secondaires à long terme. Est-ce qu'on peut répondre à ça, Olivier Schwartz? Je pense qu'on l'a déjà fait dans le téléphone sonne, mais on va le refaire. A-t-on déjà vu un vaccin qui provoque des effets secondaires à très long terme, à plusieurs semaines, voire à plusieurs mois? Est-ce que, de toute façon, ça existe?
Alors, il y a des, il peut y avoir, c'est tout est affaire de bénéfice-risque. Donc, je suis pas clinicien, donc je suis pas la meilleure personne pour répondre précisément. Mais les effets secondaires d'abord de vaccinaux sont souvent à court terme, voire très court terme. Mm-hmm. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'effet sur le long terme. Il peut y avoir des réactivités du système immunitaire qui causent certaines pathologies, mais encore une fois, le risque est beaucoup, beaucoup plus faible que le risque associé à développer une infection, enfin, une pathologie suite au Covid. Et tout à l'heure, on parlait, par exemple, des personnes jeunes qui hésitent à se faire vacciner. Là aussi, il y a le Covid long, il y a des personnes qui perdent le goût, l'odorat sur plusieurs mois, même jeunes. Les risques vaccinaux sont beaucoup plus faibles que les risques associés à l'infection.
Philippe Amouyel, vous avez entendu aujourd'hui, l'une des propositions dit qu'il faudrait que les médecins traitants, les médecins généralistes aient la liste des gens qui ont été vaccinés pour pouvoir justement appeler ceux qui ne l'ont pas été, essayer de les convaincre en tête à tête. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée, une bonne approche?
Oui, à côté des obligations vaccinales, il y a également le fait d'aller chercher ces personnes, en particulier les plus âgées, ces 5 millions de personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui sont là le foyer potentiel de saturation du système hospitalier français en septembre. Et la CNIL, je crois, a donné l'autorisation de pouvoir transmettre ces listes d'informations de personnes non vaccinées aux médecins. Et pourquoi aux médecins? Parce que beaucoup de ces personnes hésitent à se faire vacciner. Donc il faut absolument une personne de confiance, qu'ils connaissent, leur médecin traitant. Alors les vaccinodromes, c'est formidable pour les gens motivés, mais pour ces personnes, il faut quasiment aller vers elles et les convaincre. Et la meilleure façon de les convaincre, c'est leur médecin traitant ou leur médecin généraliste qui s'est fait vacciner lui-même et qui leur dit voilà madame, ayez confiance, monsieur, nous allons vous vacciner et vous allez en bénéficier. C'est vraiment très important ce côté. Maintenant, on a fait le plus facile. Maintenant, il va falloir mettre autant d'énergie à faire les 20% ou 15% qui restent de ces personnes. C'est un excellent outil.
Qu'est-ce que vous savez de ce qu'on entend? Moi, je suis toujours un peu épatée par ça. Qu'est-ce que vous savez de ce qu'on entend dans les couloirs des hôpitaux ou des EHPAD? La plus grande crainte spécifique du personnel soignant, quelle est-elle? Parce que c'est quelque chose de très différent, j'imagine, de ce qui peut être la motivation des jeunes gens qui ne se sont pas encore fait vacciner ou des très vieilles personnes qui n'ont pas accès pour plusieurs raisons. Ce qui coince dans ce milieu hospitalier qui est censé être un milieu tellement informé là-dessus, c'est quoi en fait? Par quel bout il faut prendre ces gens-là pour les ramener au vaccin?
Alors, quand on regarde ce qui se passe dans le milieu hospitalier, certes, c'est des gens motivés qui soignent des personnes, mais c'est également des êtres humains comme vous et moi, avec toutes leurs contraintes. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que le taux de vaccination diminue en fonction du niveau d'éducation et du niveau socio-économique. Et les éléments qu'on entend, j'en ai entendu quelques-uns, c'est on hésite parce qu'on n'est pas sûr, et puis de toute façon on se protège, et puis on met le masque, et puis on entend des choses, je veux pas avoir le bras qui s'aime, enfin tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en général, on l'entend ici. Sauf que on n'est pas dans le grand public, on est chez des personnes qui prennent en charge des patients, qui sont encore plus au contact et encore plus quotidien que les médecins, et qui doivent nécessairement se faire vacciner. Donc là encore, c'est de la persuasion, mais c'est également de l'incitation forte, comme on l'a évoqué il y a quelques instants.
Bonsoir Corinne.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci infiniment d'avoir pris mon appel. Donc j'ai une première question à poser. Je me suis fait vacciner, primo-vaccination au Pfizer le 18 juin. En fait, ça faisait presque 2 mois que j'attendais que mon pharmacien en ait, mais il n'en avait pas. Et comme je suis handicapée, c'était plus difficile. Mais j'ai quand même fait 50 km pour aller me faire vacciner, donc au centre de vaccination. 100 km aller-retour, c'est très dur pour moi, mais c'est pas grave. Mais on m'a donné un rendez-vous le 30 juillet pour la deuxième injection. Et je me demandais si l'intervalle entre les deux n'est pas trop long.
18 juin, 30 juillet, c'est 6 semaines, donc c'est l'intervalle basique, non, Olivier Schwartz, désormais. On avait dit qu'on resserrerait un peu, je ne sais pas si on en resserrerait finalement.
Voilà, maintenant je pense qu'il y a une certaine flexibilité entre 3 et 6 semaines, donc si le rendez-vous est fixé, c'est bien pour cette dame qu'elle puisse en profiter.
6 semaines, moi j'ai été vaccinée à 6 semaines par exemple, enfin on est dans une période assez basique.
Oui, il y a eu une certaine latitude de toute manière.
Ça a été 4, ça a été 6,
au début, ça a été, par exemple en Angleterre, ils avaient choisi pour le vaccin AstraZeneca d'augmenter la période pour pouvoir privilégier un plus grand nombre de personnes qui reçoivent la première dose. Et en fait, il y a des études qui montrent que se revacciner entre 3 et 6 semaines ne change pas fondamentalement l'efficacité, la quantité d'anticorps qui est produite.
La question de Didier qui est en Picardie sur franceinter.fr et qui nous dit ceci. Je trouve dommage que l'avis de l'Académie des sciences n'ait pas été suivi. Selon moi, il y a beaucoup de tests PCR qui sont des tests de confort pour certains qui ne vont pas se faire vacciner. Ils se font donc tester pour sortir. Il faut donc arrêter de rembourser ces tests. Là aussi, Philippe Amouyel, depuis quelques jours, on va dire, depuis qu'on s'inquiète du variant Delta, en fait, il y a un certain nombre d'idées qui viennent. Donc, il y a les médecins généralistes qui doivent appeler ceux qui ne sont pas vaccinés. Il y a l'idée aussi de cesser de rembourser les tests PCR ou de les rendre payants, en tout cas. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous ?
Toutes les mesures qui vont permettre d'accélérer la vaccination pendant les 2 mois qui viennent, à mon avis, sont bonnes à prendre. Si on prend l'exemple en particulier de la déclaration de l'Académie de médecine qui propose de ne plus rembourser les tests pour les personnes non vaccinées, sauf indication médicale, sauf cas contact déclaré par l'assurance maladie, à mon avis, est une excellente hypothèse. Aujourd'hui, un pass sanitaire, vous pouvez l'avoir parce que vous avez été vacciné, parce que vous avez été déjà infecté ou parce que vous venez de faire un test dans les 72 heures. Donc quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner, qui veut avoir un pass sanitaire pour quand même aller au spectacle, aller dans les restaurants et donner, avoir accès à tout ce qui lui permet, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh ben, il va aller faire très régulièrement des tests parce qu'il n'a pas envie de se faire vacciner. Le jour où il va devoir payer, alors si on les rembourse à peu près au prix de remboursement entre 30 et 70 euros, il ne va pas pouvoir en faire 10 à ce moment-là. Donc ce sera beaucoup plus simple pour lui de se faire vacciner économiquement et techniquement. Donc c'est une incitation forte, intéressante.
Est-ce que officiellement je ne suis plus qu'à contact Olivier Schwartz si j'ai eu 2 doses plus 15 jours mais que je croise quelqu'un qui n'est pas vacciné et qui a été infecté? Est-ce que officiellement je ne suis pas qu'à contact ou est-ce que je dois quand même aller vérifier si oui ou non j'ai été infecté même en ayant été vacciné?
Eh bien, je ne sais pas officiellement quelle est la définition. Vous êtes qu'à contact vous avez été en contact avec une personne, mais probablement vous n'allez pas être malade si vous attrapez le virus et probablement vous n'allez pas être infecté.
Voici
a priori, je pense pas que vous êtes considéré comme cas contact.
Voici, j'espère. Hein. Voici oui. Carlotta. Bonsoir Carlotta. Carlotta, est-ce que vous êtes là ? Eh ben, on l'a perdu, c'est pas grave. Jocelyne nous dit ceci. Pourquoi on ne parle plus du testé isolé, cher donc au ministre de la Santé, effectivement. Pourquoi on ne parle plus d'isoler sérieusement les cas positifs pour diminuer au maximum la circulation du virus? J'ai envie de la poser différemment, Philippe Amouyel, la question. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais tester, isoler, tracer, c'est le grand échec de cette pandémie, pour ce qui nous concerne en tout cas.
Oui, alors c'est le grand échec lorsque l'on est à 40 000 contaminations par jour, puisque en moyenne il y a à peu près 5 contacts, ça veut dire que les plateformes de l'assurance maladie doivent faire 200 000 appels par jour, ça veut dire qu'en 5 jours il faut qu'elles fassent 1 million d'appels, donc ça ne peut pas être efficace. C'est pour ça que tous les seuils qui ont été fixés de sortie de crise ou de sortie de confinement à moins de 5 000 font qu'à ce chiffre-là, on peut faire un testé, tracé, isolé, efficace et rétro-tracé maintenant, c'est ce qui est important. Donc on est aux alentours d'environ entre 2000, 1500 et 2000. Les plateformes d'assurance maladie ont gardé le même potentiel de travail. Elles peuvent donc efficacement faire du testé, tracé, isolé, rétro-tracé. C'est l'autre outil avec la vaccination qui va nous permettre de circonscrire la circulation du virus. Le tracé, c'est on identifie les gens que vous avez contaminés. Le rétrotracé, on identifie les gens qui vous ont contaminé, qui souvent ne le savent pas, sont asymptomatiques, sont des super contaminateurs et on bloque plus vite l'épidémie. C'est ce qui a réussi en Asie. Après, il y a la question de l'isoler. Ouais. Ça, c'est une autre question.
C'est ce qui a réussi en Asie, mais qu'on n'a jamais réussi à faire nous. Alors effectivement, vous avez raison, en fonction du nombre, ça marche finalement assez peu. Mais est-ce que ça marche à petite échelle? Est-ce que ça a marché dans les Landes, par exemple? Ou est-ce qu'on a réussi vraiment à faire ce parcours du variant Delta ou pas?
Oui, dans les Landes, oui, hein, puisqu'ils ont fait deux choses. Le premier est testé rétro-tracé de manière efficace. Ils ont pu identifier d'où venaient les cas et notamment se rendre compte que certain nombre de cas étaient des cas autochtones, c'est-à-dire qui sont nés en France ou qui ont été transmis en France sans origine venant de l'international. Mmh. Et puis, ils ont également fait ce qu'on appelle une vaccination réactive. Avant, on considérait qu'il fallait faire une vaccination en anneau, quand on prenait la personne contact. Là, non. On prend le quartier, on prend la zone et on vaccine le plus vite possible tout le monde. Et ça, c'est des moyens qui permettent, là encore, de limiter la circulation. Et c'est ce qui a été fait dans les Landes. Bon, le Gers a été quelque peu contaminé, mais probablement la transmission s'est faite avant.
On a retrouvé Carlotta. Bonsoir Carlotta.
Bonsoir, merci pour ma question. Alors moi je suis enceinte et je voulais bien me faire vacciner, mais j'ai demandé à mon médecin qui m'a dit finalement je ne sais pas si le bénéfice risque il est si bon pour le fœtus. Voilà, attends d'accoucher avant d'aller se faire vacciner. Donc j'aurais aimé avoir l'avis de vos experts.
Merci beaucoup Carlotta, elle revient tout le temps. À chaque téléphone sonne cette question, Olivier Schwartz, pour les femmes enceintes.
Les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont claires. Le bénéfice du vaccin est clairement démontré chez les femmes enceintes. Il y a des risques associés à attraper la Covid pendant la grossesse. Et donc, il est recommandé de se faire vacciner.
Une question sur franceinter.fr. À quel moment saura-t-on s'il faut une troisième dose pour tous? C'est plutôt pour vous, ça, Monsieur Schwartz.
C'est prématuré pour pouvoir répondre
là,
à cette
suite,
question.
Oui, mais...
Il faut les laboratoires AstraZeneca, Pfizer sont en train de tester des vaccins qui incorporent dans leur composition les séquences de variants. Pas encore le variant Delta, à ma connaissance, mais par exemple le variant Beta, dit sud-africain. Et donc, il faudra voir sur le long terme la durée de la réponse immunitaire. Donc, c'est ce dont on discutait tout à l'heure, mesurer les taux d'anticorps et il ne faut pas oublier aussi que même s'il y a des taux très très faibles, cela peut suffire à protéger grâce à la mémoire du système immunitaire qui peut réactiver une réponse rapidement.
Anna s'inquiète, elle est en Vendée et elle a été vaccinée au Johnson & Johnson, donc une seule dose, et au fond elle se dit mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour que je n'ai eu qu'une seule dose, pour qu'il n'y ait qu'une seule dose du Johnson & Johnson, faudra-t-il un moment en faire une autre?
Alors ça c'est une très bonne question et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de données pour l'instant sur l'efficacité vaccinale, en particulier contre le variant Delta, d'une seule dose de Johnson & Johnson. Et donc, on collabore, par exemple, avec le CHR d'Orléans pour, justement, savoir quels sont les niveaux d'anticorps après une seule dose. Et il est probable, de Johnson & Johnson, il est probable, il n'est pas impossible qu'une seconde dose d'un autre vaccin soit nécessaire chez les personnes qui ont reçu cette première dose. C'est trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qu'on peut savoir d'ores et déjà, et ça a été montré par différentes études, c'est que prendre une dose d'un vaccin, puis une deuxième dose d'un autre vaccin fonctionne très bien.
Voici une question de Joël, elle est pour vous, Philippe Amouyel, sur franceinter.fr, qui nous dit ceci, et c'est vrai qu'on se pose un peu tous la question ici et là, une réaction au vaccin présage-t-il d'une meilleure efficacité ou pas ?
Ça, c'est une bonne question également. Je pense qu'Olivier serait peut-être mieux placé. Moi, d'un point de vue épidémiologique, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, l'objectif d'une vaccination, c'est de déclencher une première réaction inflammatoire pour entraîner votre corps à répondre à une nouvelle apparition de ce variant. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, mais là, il faut demander à Olivier, ce côté-là.
Olivier Schwartz, alors, quand on n'a pas fait de réaction, parce qu'attendez, moi, j'ai fait zéro réaction. Donc, est-ce que je suis vraiment vacciné?
Non, j'aurais tendance à dire que c'est bon signe. C'est ce que je réponds à mes amis ou collègues qui ont réagi. Et je leur dis, bien oui, c'est normal, vos globules blancs sont en train de générer, de produire des cytokines, de s'activer. Et donc, le fait d'être réactogène, dans une certaine limite, montre qu'il se passe quelque chose et que le système immunitaire réagit. Et donc, c'est l'objectif de la vaccination.
Mais du coup, s'il ne se passe rien, ça veut dire quoi ?
Ça, c'est pas forcément délétère. On sait qu'il y a, il peut y avoir 20 ou 30% de personnes qui font des signes, tels la fièvre ou des signes mineurs après la vaccination. Mmh. Mais on sait que l'efficacité vaccinale va bien au-delà de ces 20 à 30%.
Camille est à Clermont-Ferrand et nous dit ceci. Est-ce que le fait d'inciter la population à se vacciner ne va pas favoriser, elle le prend à l'envers, le développement des variants et la résistance aux vaccins? Donc c'est pour ça qu'il ne fallait vacciner que les plus fragiles. Comment on répond à Camille, comment on l'aide à raisonner dans l'autre sens, en fait?
Oui, mais c'est une bonne question, parce que les vaccins les génèrent une réponse anticorps, et on voit que les variants évoluent naturellement pour essayer de se faufiler. Et donc, comment se développent ces variants? Eh bien, c'est lorsqu'ils rencontrent des anticorps. Mais si on est suffisamment vacciné et qu'on a eu le protocole complet, la quantité d'anticorps présente est suffisante pour protéger. Donc, la vaccination, au contraire, est une barrière plutôt qu'un facteur de développement de résistance.
Voilà,
on pense que les variants se développent peut-être chez des personnes qui ont une faible, qui ont été infectées, qui ont produit peu d'anticorps. Corps pour une raison ou une autre, et donc là il y a normalement le virus est éliminé en quelques jours, mais chez certaines personnes il peut rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est dans cet environnement où il y a déjà des anticorps et où le virus reste et arrive à se multiplier que probablement les variants sont générés.
Une toute dernière question, Philippe Amouyel, c'est celle de Jules qui nous demande pourquoi dans certains endroits faut-il encore faire des tests PCR ou antigéniques parfois quand on est déjà vacciné.
Parce qu'en fait, la vaccination vous permet de répondre à un variant ou à un virus de manière beaucoup plus rapide et plus efficace que si vous n'aviez pas été vacciné. Mais elle ne vous empêche pas, à un moment, d'être en contact avec le virus. Donc, par exemple, si vous devez subir une opération ou une intervention chirurgicale, la clinique, même si vous êtes vacciné, va vous demander de faire un test pour être bien sûr que, comme vous allez être très proche au contact de votre chirurgien, vous n'allez pas, par cet intermédiaire-là, le contaminer et lui transmettre.
Merci beaucoup. Merci vraiment à tous les deux. Merci pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.